Deutsche Welle Forum des Cultures.
Pour la sixième fois, le festival Africamera vient de présenter à Berlin des films de tout le continent africain, à l'affiche de la fiction, des documentaires et des courts-métrages recommandés par différents festivals comme le FESPACO, les journées cinématographiques de Carthage ou encore les rencontres du film court de Madagascar. C'est un film mozambicain qui a fait l'ouverture d'Africamera, Virgé Margarida, la Vierge Margarida de Licinio Azevedo, un réalisateur brésilien vivant depuis 40 ans au Mozambique. Notre invité pour en parler est Pedro Pimenta, il est le producteur de ce film. Bonjour et bienvenue. Maputo, 1975, juste après l'indépendance du Mozambique. Des femmes sont embarquées de force par des militaires. Personne ne leur dit quelle est la destination du convoi. Après plusieurs jours de voyage, ces citadines atterrissent avec d'autres femmes issues de tout le pays au milieu de la brousse. L'objectif, les rééduquer par le travail. On leur reproche d'avoir mené jusqu'ici une mauvaise vie, car ce sont des prostituées. Le réalisateur Licinio Azevedo revient dans Virgé Margarida sur un chapitre noir et peu connu de l'histoire mozambicaine après l'indépendance. Pedro Pimenta, le producteur du film.
C'est une grande histoire, 1975, l'indépendance du Mozambique, après 10 ans de lutte armée, un pouvoir révolutionnaire se met en place et ce pouvoir, en accord avec l'époque, se permet de penser qu'on peut changer une société de façon radicale et assez vite. Et un des domaines dans lequel le gouvernement pensait qu'il pourrait changer quelque chose de radical, c'est le domaine de la prostitution. Donc l'objectif, c'était d'éliminer la prostitution en rééduquant les prostituées, en leur fournissant, en théorie, des armes pour qu'elles puissent se réinsérer dans une société avec toute une dimension de dignité qui accompagne la femme, etc. Bien entendu, cette vision utopique s'est révélée être un désastre très vite, mais ça n'a pas seulement touché les prostituées, les transformations socio-culturelles étaient énormes, donc il y avait les prostituées d'un côté, les drogués de l'autre, les chômeurs de l'autre. On vivait une espèce d'utopie. Les nouveaux dirigeants du pays pensaient qu'ils allaient faire du Mozambique un exemple pour l'humanité, etc. Voilà.
Alors justement, l'idéologie nie aussi l'individualité. Et là, le film revient donc sur ces femmes prostituées qui ont des horizons très différents. Et il y en a une parmi elles, c'est elle qui donne d'ailleurs le titre du film, La Vierge Margarida, qui est emmenée finalement par erreur. Parce que justement, elle est vierge et elle se retrouve quand même dans un camp.
Et elle doit prouver à tout le monde qu'elle est vierge, que ce n'est pas une prostituée. Et personne ne la croit au début. Je crois que ce personnage représente un peu le personnage dramatique de l'individu face à son destin. L'individu pris dans quelque chose qui est beaucoup plus fort que lui et qui ne comprend plus ce qui se passe. Le monde autour de ce personnage s'écroule. Tous ses rêves de jeune fille qui rêvait d'épouser son fiancé, etc., s'écroulent. Elle ne comprend pas, elle ne sait pas ce qui s'est passé, pourquoi elle est là. Elle doit prouver à tout le monde qu'elle n'est pas comme les autres. Personne ne la croit. Mais comme elle est porteuse quand même d'une sagesse paysanne qui n'est pas empreinte d'idéologie, quelque part elle arrive à influencer les autres femmes par rapport à des valeurs qui sont tout simplement humaines. Et c'est ce rôle qui lui permettra de faire en sorte, tout en étant la victime, puisqu'elle se fait violer dans l'histoire, de pousser ces femmes à comprendre quelque chose qui est fondamental, je crois, dans l'histoire du film, c'est que lorsqu'on est une femme, que l'on soit prostituée ou révolutionnaire, avec les armes et tout ça, il vaut mieux se prendre en charge. Sinon, un homme, quelque part, décidera pour vous.
Alors, au départ, il y avait un documentaire. Et c'est vous qui avez poussé le réalisateur à en faire un film de fiction. Pourquoi est-ce que le documentaire ne suffisait pas à lui-même? Pourquoi en avoir fait un film de fiction?
D'abord parce que l'énorme volume de témoignages que nous avons recueillis ne pouvait pas être géré dans un seul documentaire. Chacun nous racontait son histoire et quelque part, chaque morceau de l'histoire individuelle aidait à construire un personnage. D'un autre côté, le documentaire a une diffusion qui est quand même assez réduite, même s'il y a des cas où ça s'améliore. Donc nous avons estimé qu'il y avait de la matière suffisante pour aller un peu plus loin, construire de la fiction, inspirée de faits réels, en souhaitant atteindre un public plus vaste. Et je crois qu'il est très intéressant de comparer le documentaire au film de fiction. Dans le cas du documentaire, dans la façon dont il a été traité, je crois qu'on s'adressait plus à la raison et à la possibilité de penser. Dans le cas de la fiction, on naturellement s'adresse plus à l'émotion, en se disant que l'émotion va créer chez le spectateur la possibilité de la réflexion.
Ce qui m'a frappé en voyant le film, c'est le côté tragique du film, de ces femmes qui se battent, qui sont maltraitées, qui essayent de s'enfuir et qui sont mangés par les lions, par exemple, dans la brousse. Et en même temps, il n'y a pas que seulement cette émotion-là, il y a beaucoup aussi de moments comiques dans ce film. Ça m'a un petit peu étonnée pour un sujet si grave.
Je crois que l'être humain, lorsqu'il est confronté à des situations sans issue, pris par un destin qu'il ne contrôle plus, quelque part, ce qui lui reste, c'est la possibilité de la raison, la réflexion et l'humour. Rire de soi-même nous aide à survivre. Et je crois que ça a été bien exploité dans ce film, parce que la situation dramatique et tragique, on la perçoit immédiatement. Mais construire une histoire seulement sur cette dimension aurait éventuellement poussé le spectateur à la déprime. Donc le réalisateur a préféré emmener une pointe d'humour qui correspond aussi quelque part à une naturalité de ces femmes au Mozambique. Malgré toutes les difficultés, même aujourd'hui, toutes les difficultés qu'elles ont dans leur vie, pour l'éducation de leurs enfants, etc., ce sont des femmes qui sourient et qui rient beaucoup et qui se racontent des histoires et qui gèrent leur vie avec humour. Donc je crois que cela a été bien capté dans l'histoire du film et ça aide à faire passer l'histoire.
O que é que você vai fazer domingo à tarde? Pois eu queria convidar você para sair comigo, passear por aí, numa rua qualquer da cidade.
Contrairement à d'autres pays d'Afrique, le Mozambique a une tradition cinématographique et surtout, justement, au moment de l'indépendance, il y a eu toute une production cinématographique et aussi la création d'un institut national du cinéma. Alors justement, le pouvoir de l'époque, qu'est-ce qu'il a vu dans le cinéma? Quel potentiel il a vu dans le cinéma?
Essentiellement, je crois, le potentiel de créer à partir du cinéma une identité qui n'existait pas vraiment du temps de la colonie, puisque cette identité était autour de la présence coloniale. Au contraire, les Mozambicains tout était fait pour les dénuer de leur identité. Donc la possibilité du cinéma comme instrument pour développer et créer une identité qui soit commune à un territoire qui est quand même énorme, 800 000 km², c'est aussi grand que la France, je crois, où il n'y a pas beaucoup d'habitants finalement. À l'époque de l'indépendance, ça devait être 15 millions d'habitants, nous sommes 25 millions maintenant. C'était une époque où la télévision n'existait pas. C'était une époque où, je crois, 80% des Mozambicains étaient analphabètes. 500 ans de présence coloniale n'avaient réussi à alphabétiser à peine 20% de la population. Donc l'image pouvait jouer un rôle important pour la compréhension de l'existence d'une identité qui s'appelle le Mozambique, où quelqu'un de l'extrême nord a quelque chose à voir avec quelqu'un de l'extrême sud. Une façon aussi de pousser le pays à ne pas tomber dans les querelles de nature tribale ou ethnique, en créant une identité supérieure à la tribu ou à l'ethnie. Disons que cette motivation qui est politique et idéologique a beaucoup servi le cinéma, puisque les moyens ont été mis en place, les partenariats ont été établis. Et quelque part, je crois que le cinéma a joué un rôle important pour aider le pays à exister comme entité pays. Ensuite, bien entendu, avec l'évolution au fil des ans, beaucoup de choses ont changé, les programmes d'ajustement structurel avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, etc., ont retiré la possibilité au pays, au Mozambique, de continuer à donner des ressources dans le domaine de la culture en général et dans le domaine du cinéma en particulier, ce qui nous a mené très rapidement à l'état des choses actuelles, c'est-à-dire l'existence de cinéastes qui se battent pour exprimer des choses à travers leurs films, l'existence d'une nouvelle génération qui monte, mais l'inexistence et l'absence totale de soutien de la part des pouvoirs publics. Quelque part, on est passé d'un extrême à l'autre dans l'espace d'une génération, quoi.
Voilà, c'est la fin de cette rencontre avec Pedro Pimenta, producteur mozambicain. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du Forum des Cultures. C'était Guylaine Tapaz au micro. Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que tous nos programmes sur notre site internet dw.de/français. Restez à l'écoute de la Deutsche Welle. Bonne semaine et à bientôt.